Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la seconde livre de la Torah. Le second livre de la Torah, le livre qu'on l'appelle en hébreu Shemot, et en français on l'appelle l'Exode. Dans cette paracha, donc dans ce chumash, donc dans ce livre, après le premier livre, quand on a parlé de Genèse, est l'arrivée des peuples d'Israël en Égypte, mais cette fois-ci ils sont arrivés comme les frères de Viceroy, donc ils sont venus d'une façon très honorable. Mais finalement, ils ont resté en Égypte, mais avec le temps, la situation a changé. Et comme il manquait dans notre paracha, la Torah elle renomme ceux qui sont descendus en Égypte, ils ont été 70. Mais la Torah nous dit que la situation a changé. Et là, d'un coup, toute cette génération de Joseph et ses frères sont morts. Et il y avait un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. En tout cas, comme on l'explique, on ne peut pas ne pas connaître Yosef, mais en tout cas, on faisait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Il faisait comme il ne connaissait pas Yosef. Et à ce moment-là, la situation en Égypte a carrément changé. Ce qu'étaient les frères de Viceroy sont devenus petit à petit des esclaves. Et l'esclavage est devenu de plus en plus dur. Et non seulement l'esclavage, il y avait d'autres choses qu'ils ont fait souffrir le peuple d'Israël. Et parmi les choses que la Torah mentionne, c'est que Pharaon, qu'il a appris par ses sages, que bientôt il y aura un libérateur qui va être né, il va naître dans les familles. Donc, il a demandé de tuer les garçons. Et ensuite, il a demandé de tuer tous les garçons du pays. En fait, les garçons qui vont naître, parce que selon ses sages, ils vont être... on ne sait pas où est-ce que va être le libérateur, donc dans cette période, dans ces jours, il a demandé de tuer tous les garçons. À ce moment, la Torah nous raconte comment il y avait un enfant qui est né dans la famille de Lévi, son père s'appelait Abraham, sa mère s'appelait Yocheved, d'ailleurs était la tante d'Abraham, et comment ils se sont mariés d'ailleurs le deuxième fois, comme il est marqué, ils ont été déjà mariés, mais il y avait une... Il a renouvelé son mariage, en fait, ils se sont remariés, ils ont eu un enfant, ils devraient le cacher, mais finalement, c'était plus possible de le cacher, donc ils ont mis dans le Nil. Mais à ce moment-là, la fille des paroles a pris, tout le monde connaît cette histoire, même si que parfois on la raconte avec d'autres versions, et parfois faux. Mais l'essentiel de cette histoire est connu, finalement, Moshe, il grandit, il se mêle quelque part dans les affaires, il voit un Égyptien qui frappe beaucoup, beaucoup, très, très violemment, et beaucoup, et un de ses frères. Donc, il se mêle, et Pharaon, il demande de tuer Moshe, il se sauve, il va vers Midian, et là, il se marie avec sa femme Séphora, avec les détails que la Torah nous raconte. Ça durait très longtemps, cette histoire, même si que On trouve un intervalle entre le moment où Moshe il est parti et la période où il revient en tant que celui qui va être le libérateur, quelque chose comme 60 ans. Il y a de différentes traditions, qu'est-ce qui s'est passé entre cette période, mais la Torah nous raconte en tout cas ce qui nous concerne, et qu'il était à Midian, il s'est marié avec Séphora, beaucoup de détails, et il a eu un garçon qui s'appelait Gershom. Entre-temps, il est devenu le berger de son beau-père, Yitro. Donc, puisqu'il voulait s'éloigner de la terre qui appartient aux gens, puisqu'il ne voulait pas que ses troupeaux mangent chez les autres, donc il allait loin et dans le désert, il se retrouvait devant ou sur le mont Sinaï. Et Dieu, ce qui va devenir après le mont Sinaï, il l'appelle là-bas le mont de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu se révèle à Moshe, on va revenir à ça. Et la paracha nous raconte comment Dieu il envoie Moshe pour libérer les Bnei Israël. Finalement, Dans notre paracha, en tout cas, Moshe, il vient, il parle de Israël, de Israël, il croit. Mais finalement, lorsqu'il vient à Paro, il devient plus dur et plus difficile. Donc, non seulement qu'il ne libère pas, mais il augmente le travail et c'est devenu insupportable. À ce moment-là, il y a quelques personnes qui disent à Moshe, qu'est-ce que tu as fait à cause de toi? Maintenant, c'est devenu pire. Et Moshe ne sait pas quoi faire. Il retourne vers Dieu. Il dit, pourquoi tu as fait du mal à ton peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Et depuis que tu m'as envoyé, la situation s'est aggravée. Et le dernier verset dans notre Torah, dans notre paracha, il est marqué que Dieu dit à Moshe, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Et effectivement, à partir de la paracha de la semaine prochaine, il y a les 10 plaies et finalement, il sort de l'Égypte. Alors cette paracha, c'est une belle histoire, mais en même temps, c'est un message pour la vie. Comme toute la Torah, c'est une Torah, comme on l'appelle Torah Traïm, un Torah de vie, et le message est un message de vie, c'est pour ça que la Torah nous raconte, parce que sinon, c'est pas très important parfois de connaître les détails de l'histoire, surtout qu'il y a des détails que la Torah ne raconte pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment important pour notre vie, mais si la Torah nous raconte ça, donc c'est ça la chose la plus importante dans notre vie et dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire que de cette histoire, on peut apprendre comment se comporter dans nos difficultés. Alors aujourd'hui, on va prendre des exemples surtout sur un sujet un petit peu difficile. Et au milieu de cette paracha, on voit que Hachem rencontre Moshe dans le... Donc, cette feu qui ne consomme pas, et Moshe, il est étonné, il veut voir qu'est-ce que c'est, comment ça se fait que ce feu qui brûle, il consomme pas la chose. Et lorsqu'il avance, à ce moment-là, Dieu, il commence à lui parler. Alors, c'est sûr que tous ces détails sont importants, il y a beaucoup de détails, et quelque part, on trouve dans les commentaires, surtout dans le commentaire de Maïmonide, mais d'autres, Ramban et que Nachmanide, que la base du judaïsme se trouve ici. Puisque Moïse, il va être libérateur du peuple juif, il doit savoir de quoi il s'agit. Comme si on va envoyer un professeur de droit, par exemple, sans qu'il apprenne qu'est-ce que c'est le droit. Alors Moshe, jusque-là, contrairement à ce que certains pensent, il était déjà un homme très érudit, très instruit. C'est pas qu'il vient de naître, c'est pas que c'était un simple berger. C'était un homme de très haut niveau déjà. Mais lorsque Dieu se révèle à lui, et puisque comme il est marqué dans la chassidoute, puisque c'était un homme intellectuel par excellence, il pose beaucoup de questions. Parce que normalement, on a l'impression que dans le judaïsme, la base est, comme on sait, lorsqu'on a reçu la Torah, avant de recevoir la Torah, on a dit, donc on devrait dire, on a dit qu'on va faire, on va écouter. Donc la base de tout, c'est écouter. Écoute ce qu'on te dit. Et après, tu vas comprendre. Au contraire, il faut comprendre. Mais écoute ce qu'on te dit. Ici, on voit un petit peu le contraire. Que Moshe, il veut tout comprendre. Et il veut pas, on peut imaginer la scène. Dieu, il se révèle à quelqu'un et il refuse. Dieu, on sait que Dieu, il a créé le monde, il sait tout, et pourtant, Moshe, il discute en tout cas. Il argumente, il dit des choses, mais il y a sept problèmes, et Hachem, il répond. Et ça a duré une semaine au moins, comme il est marqué dans Rashi, il est marqué dans la Torah, que Moshe, il dit, j'étais bégayeur, donc je bégaye. Depuis, en fait, depuis longtemps, ça veut dire que c'était l'argument que vous voyez bien que je bégaye, ou tu vas bien Dieu, que je bégaye depuis que tu me parles, donc il parle ici de hier et après, hier à avant-hier. Rashi rajoute qu'en vérité c'était déjà une semaine que Dieu lui parle, et Moshe, il a des arguments à ne pas aller. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à comprendre ici, comment ça se fait que Moshe, il pose des questions à Dieu, et des questions qu'il faut comprendre, et c'est très, comme on a dit, c'est la base du judaïsme se trouve ici. Et selon la chassidoute, Moshe, il devrait poser des questions. Et s'il ne pose pas des questions, il ne fait pas son travail, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quelqu'un qui va faire un travail énorme. Et avant ça, il fait pas son devoir. Il fait confiance à celui qui l'a envoyé que tout ira bien. C'est pas comme ça qu'on fait un travail. C'est pas comme ça qu'on, lorsqu'on fait quelque chose de sérieux. Moi, je lui pose beaucoup de questions jusqu'à le moment où Dieu lui dit stop, effectivement. Mais puisqu'on veut prendre aujourd'hui cette idée de la paracha dans notre vie quotidienne, et donc si on est éducateur dans la vie d'un éducateur, si on est père de, ou mère de famille, et on a des enfants, il faut savoir comment on s'occupe de nos enfants, il faut connaître ces bases d'enseignement. Et en vérité, ces bases de relations humaines, ou bien chaque guide de communauté ou chaque guide en général des pays ou d'autres, il doit savoir ces bases importantes. Alors si Moshe, alors on va aller étape par étape, comme il est marqué dans la Torah, Hachem il demande à Moshe de libérer le peuple d'Israël, et Moshe il dit « Qui je suis ?» Qui je suis ? Moshe il est humble. C'est bien d'être humble, mais jusqu'à un certain point. Souvent, les gens capables de faire quelque chose, ils ne le font pas parce qu'ils se demandent qui je suis. Je ne suis pas grand-chose, prenez quelqu'un qui est plus fort que moi. Et parfois, les gens qui ne sont pas appropriés, c'est eux qui prennent la place. Ce n'est pas simple, mais en tout cas, la question d'un homme humble comme Moshe, qui a beaucoup de qualités et pourtant il se sent petit, c'est bien peut-être de se sentir petit, mais jusqu'à un certain point. Donc, Moshe, il demande à Dieu, qui je suis que je veux libérer le peuple, et qui je suis qui je veux chez Pharao, et que je veux libérer le peuple de l'Égypte. Alors, selon Rashi, il y a deux arguments ici. D'ailleurs, il faut savoir que dans ces mots qui ne sont pas simples, il y a plusieurs explications. Rashi nous explique qu'il y a deux questions ici. La première question, qui je suis, quelque part, je ne suis pas la personne... la personne idéale pour parler au roi, quelque part cherche ailleurs, mais cherche quelqu'un qui est plus capable que moi. Le deuxième argument de Moshe, ça c'est très étonnant. Moshe il dit pourquoi je veux libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et là on a vu dans la Torah avant, dans l'histoire, que Moshe il a vu comment on se bagarre entre des amis, comment il y avait des choses pas beaux, ce qu'il manquait dans la Torah, là il frappe l'autre. Et on a vu ça au début de notre paracha. Et c'est à ce moment que Moshe devrait se sauver. Il a vu deux personnes qui se bagarrent. Il dit là, pourquoi tu frappes l'autre? Et l'autre il dit, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et à ce moment-là, Moshe il se sauve. Mais il voit, là-bas il est marqué que Moshe il a dit, les choses étaient sues. Et Rashi nous explique parmi les explications que, au début, il dit que, en fait, il y a une explication simple que je pensais qu'on ne sait pas ce que je fais, maintenant on le sait. Mais il y a une autre explication que maintenant je comprends pourquoi ils sont en exil, parce qu'ils ne savent pas se comporter. On se bagarre. Les gens qui se bagarrent, bien, ce n'est pas très beau. Donc, alors, quelque part, Moshe, il avait ce regard amer envers le peuple juif à cette époque. Donc, quelque part, lorsque Dieu veut libérer le peuple juif, il doit convaincre Moshe qu'ils sont méritants. Mais l'argument de Moshe, donc, comme on a dit tout à l'heure, il a deux arguments. Tout d'abord, qui je suis. Deuxièmement, et pourquoi il mérite d'être libéré. C'est choquant, cette idée, mais en tout cas, on va même dire que Moshe, il n'a pas vraiment pensé comme ça, qu'ils ne doivent pas être libérés. Quelqu'un qui souffre, il faut arrêter de souffrir, même si il a quelque part faute, il a fauté quelque part. Mais peut-être que dans le fond de son cœur, il a un cœur lourd sur cette personne. Donc alors il le sort, il explique, parce que pour être un bon libérateur, c'était nécessaire, même si pour le moment, Moshe n'était pas prêt. Bon, pour être un bon libérateur, il doit être convaincu. Si on n'est pas convaincu, on ne peut être pas un bon libérateur. Donc alors, c'est ça l'idée, les deux questions que Moshe pose. Tout d'abord, il pose la question, qui je suis? Je ne suis rien. dénote pas qui sont eux. Ça veut dire pourquoi mérite-t-on ces peuples d'être libérés. Alors si on essaie de traduire ça vers l'idée générale, quelqu'un qui est enseignant, quelqu'un qui est guide d'une communauté, quelqu'un qui s'occupe de différentes choses, alors la question qui je suis, c'est une mauvaise question. Oui, il faut poser la question, mais il faut donner la réponse après. Quelqu'un qui est père de famille, mère de famille, qu'on demande à nos enfants telle et telle chose, on essaie d'éduquer bien nos enfants, et là, à un moment donné, je peux dire qui je suis. Et peut-être on a des vrais arguments, on peut dire, en vérité, je suis rien. Pourquoi je demande à lui? Et moi-même, je suis pas au niveau. Là, c'est une mauvaise chose. Alors pour ça, il y a quelques bases. Il faut savoir que c'est Dieu qui nous demande de s'occuper de nos enfants. On a une responsabilité, même si que je peux poser toutes ces questions. Pourquoi moi? Mais il faut savoir que c'est nos responsabilités. Et on a une grande responsabilité. Maintenant, il y a donc un guide d'une communauté ou bien d'autres. Ils doivent aussi, même s'ils se posent cette question, ils doivent dire, oui, j'ai une responsabilité très importante. Donc la réponse que Dieu il donne à Moshe sur la question qui je suis, Dieu il dit, je vais être avec toi. Donc la question, même si que l'argument qui je suis est bonne, mais il doit savoir qu'il a une force. Ça, c'est une réalité aussi. Ça, c'est une réponse à tout, nous tous qu'on est. On s'occupe, ou bien on doit s'occuper des groupes de gens, si c'est notre famille, si c'est d'autres manières. On peut poser parfois la question qui je suis, mais il faut donner la réponse, à savoir que j'ai ce devoir, et puisque j'ai ce devoir, Dieu me donne la force. D'une autre part, dans la même phrase, il faut savoir que les personnes devant moi méritent d'être libérées, ou bien quand il s'agit de l'éducation, ils méritent d'être bien éduqués, ou bien dans d'autres domaines qu'on s'occupe. Il faut, même si on a parfois des questions, qui ils sont, est-ce qu'ils méritent de faire que je fasse l'effort pour eux? Alors si, on mérite, chacun il mérite. Donc ça c'est la première chose, encore une fois, dans l'éducation. Il faut... Même les personnes qui ont un peu de mal, ils se posent des questions, qui je suis, pourquoi moi? Il doit savoir que si Dieu l'a mis dans cette situation, donc il a la force, il doit trouver en lui la force, il doit le faire. Et d'une autre part, il doit savoir que les personnes devant lui, on peut poser des questions, pourquoi il mérite, et pourtant il fait telle et telle chose. Et pourtant, on est là pour aider tout le monde. Dans les cas où c'est possible, mais en tout cas, ça c'est la vision générale. Même si on a quelques arguments qui on peut dire qu'ils ne méritent pas qu'on l'aide, mais on est là pour l'aider d'une façon générale. Alors, bien sûr qu'il y a des cas exceptionnels, mais ça c'est d'une façon générale. Quand on est directeur d'école, quand on est père de famille, et que parfois on a ces arguments qu'ils ne méritent pas que je le fasse. Depuis mon chemin, on a vu que c'est pas bon, il faut aller, il faut faire. Et ça, c'est la première question qui s'est divisée en deux. Ensuite, Moshe, il n'est toujours pas convaincu et il pose la question. Alors, ça, c'est une question assez difficile. Et dans le monde kabbalistique, on parle beaucoup de cette question. Il demande à Dieu, voilà, je veux venir devant les Bnei Israël. Je veux leur dire que Dieu, il s'est révélé à moi. Il m'a demandé de vous libérer. Ils vont me demander, c'est quoi son nom? Qu'est-ce que je veux leur dire? Alors, c'est un peu une question bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi son nom? Il y a de différentes explications très intéressantes. Il y a Rashi qui explique de différentes manières. Mais surtout, on va retenir cette notion. On ne va pas, cette fois-ci, rester long dans cette question. Mais on peut dire que la question, comme Rashi explique d'ailleurs, c'est quoi son nom qui dit que Dieu il a un nom? Qu'est-ce que c'est un nom? Le nom, c'est plutôt une notion de comportement. Ça veut dire que quand quelqu'un se comporte d'une manière, il porte un nom. Pourquoi les personnes, quand quelqu'un qui est dentiste, on l'appelle dentiste. Lorsqu'il est à la maison, on l'appelle père de famille. Selon la situation où il se trouve, et selon cette situation, on l'appelle. Donc, c'est le nom des actes qu'il fait, le nom des fonctions qu'il prend. Alors là aussi, il voulait, mon cher, voulait comprendre le comportement de Dieu, parce que c'est très très difficile de faire des choses et pourtant, à côté de ça, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie et que Moshe n'a pas compris et que nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu fait telle et telle chose. Mais à partir de là, on essaye de poser, de dire, puisque je ne comprends pas, je fais des conséquences. Alors c'est pour ça que Moshe voulait comprendre pas mal de choses dans le comportement de Dieu et surtout, qu'est-ce que c'est, pourquoi, jusqu'à là, Dieu l'a laissé faire et à partir de là, d'un coup, il est libérateur. Et ça, c'est une question difficile. Et Dieu, il a répondu, en tout cas, la base aussi de ce comportement de Dieu. L'idée, en fait, générale, on ne va pas détailler ça, c'est que, tout d'abord, moi, je rajoute, ce n'est pas marqué ici, que le schéma de Dieu, on n'arrive pas toujours à comprendre. Plutôt, on arrive peu à comprendre. Mais d'une autre part, on essaye de comprendre, il faut essayer de comprendre. Moshe, lorsqu'il veut partir en tant qu'envoyé de Dieu, il essaye de comprendre le comportement de Dieu. Ce que Dieu il dit ici, que c'est vrai que il y a, la vie est dure, Dieu il a créé un monde difficile, où il y a des épreuves, etc. Et pourtant, l'homme il doit savoir que Dieu il était avec lui malgré tout, même si qu'on a l'impression qu'on comprend pas, on comprend pas pourquoi telle et telle chose m'arrive. Alors ça, c'est un sujet qui mérite plus de temps. Mais ça, c'était la deuxième question de Moshe, que Dieu lui répond. La troisième question, que là aussi on peut apporter plus loin, au fait, dans notre vie personnelle, et pour chaque éducateur, chaque personne qui s'occupe d'éducation, qui s'occupe avec le public, Moshe, il dit, ok, alors il a des réponses, qui je suis, peut-être tu es rien, mais Dieu est avec toi, donc d'un coup tu es très fort. Que ce peuple mérite, il mérite, parce que comme il manquait dans la Torah, que même si que maintenant ils ne vont pas avoir de mérite, mais grâce à telle et telle chose qui va se passer, dans notre cas, grâce à la sortie de l'Égypte, ils vont avoir de mérite. Donc je les libère pour les mérites qu'ils vont recevoir après avec le don de la Torah. La question, quel est ton nom, Dieu, il répond. On n'a pas trop développé cette idée. La question, la troisième question, qu'on va arrêter, la quatrième question, que Moshe dit, mais ils ne vont pas me croire. Et à ce moment-là, Dieu lui donne trois signes. Alors, trois signes, que quelque part, ça, on a l'impression que c'est une sorte de magie. Fais telle et telle chose, et ils vont te croire. Mais Rashi explique autrement, certainement parce que la magie n'était pas quelque chose d'exceptionnel à l'époque en Égypte. Rashi explique que c'est plutôt un message. Et c'est ça qui nous intéresse aussi pour notre vie. Quelque part ici, la réponse de Dieu, donc Moshe il dit, je vais venir devant le peuple d'Israël, je vais leur dire, Dieu m'a envoyé pour vous libérer et ils vont pas me croire. Alors Dieu il conteste le fait que Moshe il fait pas confiance au peuple juif, il pense qu'ils vont pas croire. Et Hachem il conteste aussi le fait que Moshe il a regardé avec des yeux critiques sur le peuple d'Israël, comme on a dit tout à l'heure qu'il dit. Et pourquoi il mérite de sortir. Et là, il lui a demandé de jeter ce qu'il a dans la main, et c'était un bâton. Il a jeté, c'est devenu un serpent. Et ensuite, il demande de le prendre dans le cœur, et c'est devenu à nouveau un bâton. D'ailleurs, on va aller voir la semaine prochaine, dans la parasha de la semaine prochaine, comment je vais reproduire cette idée, cette chose. Mais ici, c'est plutôt une notion. Le serpent représente, en tout cas dans la Torah, quelque chose, un venin. Le venin, parfois, d'ailleurs, les serpents représentent deux choses opposées, le négatif et le positif, aussi dans la Torah. Mais ici, le serpent, il représente le venin, celui dont on compare à celui qui parle mal de quelqu'un d'autre. C'est comme un serpent. Donc, quelque part, Moshe, il devrait dire au peuple d'Israël que j'étais frappé parce que je parlais de mal de vous. Et le message, ensuite il y avait d'autres signes que peut-être on n'aura pas le temps de rentrer. Le signe, il est devenu lépreux pour un moment, et aussi le troisième signe, que l'eau est devenue sang. En tout cas, l'idée c'est que Moshe il devrait comprendre que c'est très grave ce qu'il a fait, qu'il a critiqué le peuple d'Israël en disant de quel mérite ils ont pour le sortir de l'Égypte, ou bien ce qu'il a dit, maintenant je comprends et pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont en exil. Ça, c'est un regard qu'on ne doit jamais avoir. D'ailleurs, peut-être on peut dire comme ça qu'on doit critiquer soi-même. S'il y a un problème, quand il arrive un problème, on peut dire, il m'est arrivé tel problème parce que j'ai fait telle et telle chose, j'ai le droit et le contraire. Selon les Maïmonides, il nous arrive des choses dans la vie et on doit faire notre calcul et dire, ah, je dois me renforcer dans tel et tel domaine. Et parfois, critiquer telle et telle chose, peut-être le mot critique n'est pas bon, mais dire, puisque j'ai fait telle et telle chose, j'ai reçu telle et telle chose. Ça, c'est par rapport à soi-même. Par rapport à quelqu'un d'autre, jamais on a le droit de le faire. Le contraire, il faut regarder sur quelqu'un d'autre avec, avec un autre regard, qu'il a tout le mérite du monde d'avoir que le bien. Alors, c'est sûr que là aussi, c'est un sujet qu'il faut développer. Jusqu'à où, jusqu'à quel poids. Mais en tout cas, en tant que dirigeant, Moshe Rabbeinu, Moshe, il devrait avoir un regard positif sur le peuple, même si qu'il y a des choses à critiquer. Mais ça, c'est son rôle, de regarder toujours positivement. Et d'ailleurs, on voit à la suite de la vie de Moshe, que toujours, en tout cas presque toujours, il avait ce regard très très positif, même devant les gens qui étaient très très mauvais, si on peut dire. Donc alors, ça c'est aussi un message pour tout éducateur, d'éviter de dire de mal à son sujet, à la personne qui s'occupe de lui, même si ce n'est pas toujours facile. Essayez de voir le positif. Ne pas ignorer, ou ne pas ignorer le mal. À ce moment-là, les élèves ils vont monter sur la tête. Il faut être réaliste, il faut voir, mais éviter toujours essayer de trouver le positif, trouver peut-être, même si on connaît les problèmes de tel et tel enfant, de tel et tel élève, mais il faut trouver le positif. Ça ne va pas dire qu'il faut dire alors tout va bien, alors il faut le laisser faire. Mais d'une façon générale, il faut regarder d'une façon positive. Même si que parfois on punit ses enfants dans les cas où ce n'est pas possible autrement, mais il faut avoir quand même ce regard positif, même au moment de la punition. Alors là aussi, c'est un message pour tout éducateur. Ensuite, Moshe, il n'est toujours pas d'accord. En fait, il refuse toujours. Et la quatrième fois, que c'est le cinquième argument, il dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. Je bégaye. On sait que Moshe, il a bégayé jusqu'à la donne de la Torah. Qu'à ce moment-là, il était guéri. Mais pour le moment, Moshe, il bégaye. Alors, quelque part, c'est très étonnant. Dieu, il n'a pas trouvé quelqu'un mieux que Moshe. Je bégaye. J'ai des difficultés. Alors là, on parle de bégayer, mais on peut trouver d'autres problèmes que quelqu'un il trouve en lui. Alors Dieu, il répond à Moshe, qui a fait l'homme parler? Qui, quelque part, l'explication simple, l'idée simple, c'est que tu parles à moi, c'est moi qui fais cette machine qui s'appelle l'homme. Je connais bien tes difficultés, tes défauts. Alors, si je te dis que tu peux parler, tu peux parler. Finalement, on voit que Moshe, il parle, il devrait parler, et Aaron le traduit. Mais en tout cas, il y a d'autres explications. Rashi, d'ailleurs, il explique cette idée autrement. C'est intéressant, mais nous, on va rester avec ce qu'on a l'impression lorsqu'on lit, que Moshe, il dit, je ne peux pas parler, je bégaye. Donc, ce n'est pas la personne idéale pour parler. Pourquoi Dieu a choisi Moshe? Et Hachem il dit, je sais, très bien, et pourtant je t'ai choisi, c'est moi qui mets, je te mets les paroles dans la bouche, ça va s'arranger. Maintenant, puisqu'on essaye de voir quel est le message pour nous, pour la vie, et il faut savoir, alors là c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut savoir que si on a un rôle quelque part, alors c'est vrai qu'il ne faut pas avoir connaître la vérité. Quelqu'un qui a des difficultés donne quelque part, il doit savoir laisser la place parfois à quelqu'un mieux que lui. Mais il faut bien réfléchir. Parfois, on laisse la place parce qu'on ne veut pas faire. Alors, c'est facile à dire, non, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais il faut bien réfléchir. Mais si je sais que c'est ma place, alors il faut surmonter les épreuves. Il faut savoir parler même ce qu'on bégaye. Quelque part, il faut savoir que si on a un rôle, il faut le faire. Alors, je vais essayer de... puisqu'on dit que ce message est international, même s'il s'agit de la sortie de l'époque juive de l'Égypte, mais c'est un message pour tout éducateur, et c'est pour ça que ce message est nécessaire pour savoir, pour connaître, pour lire, et pour savoir quel est le message, et comment il faut se comporter. C'est pour ça que la Torah elle est éternelle, et c'est un Torah de vie. Donc, Moshe, Dieu l'a choisi comme guide, et c'est un message pour tout guide dans le futur, si c'est un guide d'un peuple, ou un guide d'un groupe, ou tout simplement quelqu'un qui dirige une famille, etc., il doit mettre ses poids devant lui, ou n'importe qui peut avoir une influence, qui n'a pas d'influence. Il faut savoir que puisque Dieu m'a envoyé, il m'a mis dans telle place, je dois trouver des forces intérieures. En tout cas, pour terminer, il y a beaucoup de détails, c'est une paracha très riche dans tous les domaines, au niveau psychologique et à tout domaine, il y a beaucoup à tirer. On peut puiser encore et encore sans fin, comme on voit dans les bibliothèques de la Torah, qu'il y a des commentaires, des séries de commentaires, on les voit dans tous les domaines, ça va. Mais ce qui nous intéresse donc, puisqu'on revient à cette idée que les peuples juifs, ils ont été en Égypte, et Dieu, il essaye de montrer à Moshe qu'il faut savoir utiliser les moments faibles pour surmonter. Et c'est ça le message, toujours, le message de la sortie de l'Égypte, même une fois qu'on se trouve dans des situations de difficulté, à savoir qu'on a des forces cachées, et lorsqu'on va révéler nos forces cachées, alors, à ce moment-là, c'est ça notre libération. À ce moment-là, on va se libérer de nos problèmes. Alors, ça, c'est vrai pour chaque personne, mais ça, c'est vrai aussi pour la vision générale du monde. Le monde, il a un bon potentiel. Il va se libérer de ses difficultés, de ses bêtises humaines. Mais pour ça, on a besoin d'efforts des uns et des autres. Tout d'abord, à savoir qu'on est dans un monde qui appartient à Dieu, que Dieu, il a mis les difficultés, mais il a mis à côté de ça les solutions, que chacun doit s'attribuer et participer à ce que le monde soit bon, mieux, éclairé. Et même quand on a l'impression que tout va mal, il faut trouver le positif dans le négatif. Et c'est ça le message, c'est comme ça qu'on va finalement, et chaque individu, il a la force de rentrer, de changer le monde pour un monde meilleur. Et comme on dit dans ce langage, un monde de Mashiach. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.